Alors Geoffrey, dis-moi, est-ce que ça te manque pas Geoffroy, Geoffrey?
Si, forcément, ça manque toujours par rapport à l'ambiance qu'il y avait, quoi. Donc c'est quand même l'une des meilleures ambiances, si ce n'est la meilleure ambiance en France.
D'accord. Quand tu rentrais sur la pelouse, est-ce que tu regardais les tifos? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un tifo qui t'a marqué plus que d'autres?
Ouais, je l'ai regardé, j'ai même demandé à ma femme de venir au match avec un appareil photo pour pouvoir prendre des photos. Et après, je vais te dire que non, il n'y en a pas plus un qui m'en a marqué parce que je les ai tous trouvés magnifiques, sincèrement.
D'accord, ok. Alors d'accord, le climat à Montpellier est sans doute plus sympa qu'à Saint-Étienne, mais est-ce qu'au niveau des supporters, tu regrettes pas quand même un peu Saint-Étienne?
Non, je ne vis pas avec les regrets. Je vais simplement dire que je garde des super grands moments avec Saint-Étienne, mais voilà, à partir du moment où j'ai fait un choix, je regrette rien.
D'accord. Est-ce que tu peux décrire ce qui se passe dans la tête d'un joueur pro au moment où il marque un but magnifique et décisif à la dernière seconde d'un certain Saint-Étienne-Marseille? Si tu pouvais nous refaire vivre tes...
Ouais, par la plus grosse émotion qui puisse y arriver, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu étais euphorique, tu sais que voilà, le but est quand même très très beau, t'as les supporters, c'était les arrêts de jeu, mais je retiendrai surtout le bruit, l'ambiance qu'il y avait à Geoffroy Guichard au moment du but, où j'ai senti vraiment un stade exploser et j'avais envie d'exploser avec lui.
D'accord,
quoi.
D'accord. Alors, tu sais qu'il est interdit de refaire deux fois le même geste, surtout contre Saint-Étienne, Geoffroy.
Ouais, non, mais après, voilà, c'est une page qui s'est tournée, maintenant j'ai un autre club et je défends mon autre club, ce qui est normal, mais voilà, mes souvenirs ne changeront pas pour Saint-Étienne.
Entendu. Alors si à la 93e minute de Montpellier-Saint-Étienne samedi, au moment d'armer ta frappe, tu feras quoi? Tu penseras au peuple vert et tu feras le bon choix?
Non, à ce moment-là, je penserai surtout à mon équipe, mais je resterai surtout... Bon, après, on ne sait pas comment les matchs vont passer, attention, hein, mais bon, s'il doit y avoir un but de ma part contre Saint-Étienne, je resterai vraiment très calme parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce public.
D'accord. Alors, il y a un poteau nôtre qui lui-même est papa depuis peu et qui te dit félicitations tout d'abord pour la naissance de ton bébé. Papa également depuis peu, j'espère que tu te sens plus préoccupé par ton petit quinquin que par marquer contre les Verts. Est-ce que tu vas donner le biberon la nuit qui précède le match, justement, contre tes anciennes couleurs?
Ma femme allait, donc déjà pour le biberon c'est raté, mais c'est gentil de poser la question. Non, mais je m'en occupe comme tout papa, hein, donc après il y a les mises au vert, donc la veille je serai pas avec ma femme.
Forcément. Alors le peuple vert s'est régalé pendant des années de toutes tes blagues, tu l'avoueras, souvent réalisées aux dépens des autres joueurs. Alors il y a un poteau nôtre qui garde en mémoire celle avec la moutarde, je crois, sur les couverts et les pots de confiture, que tu étalais, je crois, généreusement dans les casiers et paraît-il sur les vêtements. Est-ce que tu peux nous en raconter d'autres, et notamment celles que tu considères comme les plus drôles?
Non, sur les vêtements, c'est faux. Sur les couverts, ouais, c'est vrai que j'en ai fait. Mais après, ça m'est arrivé aussi de mettre du gel douche dans les chaussures partant de pluie. D'accord. Donc comme ça, quand le mec allait assez avec l'eau, ça mousse, quoi. Ouais, donc en fait, le mec, il jouait avec une chaussure pleine de mousse, quoi. Voilà, c'était sympa aussi.
Ça fait partie de tes blagues les plus russes.
Ouais, ça peut être sympa. Ouais, il y en a plein d'autres, mais après, il y en a tellement que... Après, c'est surtout se charrier sur des gestes techniques ratés ou des choses comme ça.
D'accord. Alors, est-ce que ça t'agace pas qu'on fasse trop souvent de toi un amuseur, entre guillemets, plutôt qu'un bon joueur de foot? C'est vrai que c'est un peu l'image que tu véhicules.
Ouais, mais bon, après, j'ai cette image-là, je l'accepte volontiers parce que, voilà, moi, je suis content de la vie que je mène. Je sais que je suis un privilégié de faire ce métier-là. D'accord. Et je prends vraiment du plaisir dans ce que je fais. Je suis un homme heureux, donc je le fais ressentir aux autres.
D'accord. Alors, Geoffrey, allez, tu peux nous avouer que tu rêves de piquer la place de Laurent Paganelli, en fait.
Non, pas de piquer, de travailler avec lui, pourquoi pas, parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, je sais qu'il m'estime bien, mais pas aller contre lui, j'aime pas ça, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais travailler avec lui, ouais.
D'accord. Alors, Paganelli, est-ce que c'est toujours ton ami? Parce qu'il y a un poteau nôtre qui se souvient d'un match où tu l'avais renvoyé dans ses 16 mètres suite à ton remplacement, t'avais l'air grave énervé ce jour-là, selon la mémoire de ce supporter, donc entre Paga et toi, non, c'est bon.
Il y a absolument rien avec Paga, ça s'est toujours bien passé. Parfois, je lui demandais même d'avoir un peu de retenue parce que c'est avant un match, c'est jamais trop bon de rigoler.
D'accord. Alors, autre question, est-il vrai que tu utilises des Adidas Predator à talonnettes?
Non, c'est faux. J'ai la taille que je fais, je ne tricherai jamais dessus.
D'accord. Alors, question plus football, c'est quoi, Geoffrey, ton poste de prédilection, milieu gauche ou numéro 10?
Franchement, je vous avouerai que d'être sur le terrain, ça me convient très bien. Alors, ça m'est arrivé de jouer à droite, à gauche, derrière l'attaquant, et sincèrement, j'ai pas vraiment de poste, parce qu'après, ce serait vraiment faire le difficile. D'accord. Moi, si on me met sur le terrain, ça me convient. Je donne tout quand je suis sur le terrain, voilà.
Alors, à Caen, tu étais sur un fabuleux nuage, on se souvient du match de folie que t'avais fait ce soir-là. Pourquoi en es-tu redescendu, demande un poteau nôtre, et plus sérieusement, il te demande si ta carrière ne souffre pas d'un certain manque de constance dans tes prestations. Comment tu analyses?
C'est-à-dire, ça dépend, qu'est-ce qu'il appelle le nuage, et après redescendre du nuage.
Le fait que tu étais au top ce jour-là, tu étais à un niveau vraiment excellent, et que parfois, c'est son point de vue, et je pense qu'il est partagé par certains supporters, on a l'impression que tu peux atteindre le très haut niveau, mais tu manques un peu de constance dans tes prestations. Est-ce que tu partages ce
point de vue? Oui, certainement, j'en suis conscient que tout n'a pas été parfait sur chaque saison, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où tu te sens beaucoup mieux que d'autres, c'est vrai que tu as des matchs là où tu es marquant, et tu as des matchs où tu es un peu moins bien, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, tu as des semaines un petit peu plus difficiles, voilà, ça fait partie du jeu, je sais que voilà, beaucoup de gens me le disent, que je suis pas constant, mais voilà, on maîtrise pas toujours tout. Hein.
D'accord. Alors, durant ces 3 années passées à l'ASS, quel est le joueur qui t'a le plus marqué sur et en dehors du terrain?
Pascal Findouno, forcément, ouais, parce que c'était un type tellement généreux, tellement gentil, puis bourré de talent, quoi. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu jouer. J'en suis vraiment fier parce que c'est vraiment un très grand joueur et un mec adorable.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre à Saint-Étienne? Parce que bon, on sait que la vie de joueur pro, certes, il y a les entraînements, mais ça laisse quand même le temps de profiter un peu de la région. Toi, qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre? C'était vraiment famille, cocooning, ouais, voilà. Ou tu t'en as profité?
Non, moi je suis vraiment quelqu'un de très famille, de très casanier. Voilà, je restais vraiment. Ma femme travaillait, et la plupart du temps, quand j'étais tout seul à la maison, quand ma fille était à l'école, je restais à la maison, je faisais ma sieste, je regardais la télé, après j'allais chercher ma fille à l'école. Je suis vraiment quelqu'un de très très posé.
Ok. Alors, comment expliques-tu le naufrage de Saint-Étienne l'an dernier? Bon, ça a été une saison très éprouvante.
Il y a beaucoup de raisons. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses faites et dites déjà contre Laurent Rousset qui étaient totalement fausses. Aujourd'hui, par exemple, je cherche pas à le protéger ni quoi que ce soit, mais je suis juste réaliste. Quoi. C'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en disant qu'il avait divisé le groupe, qu'il ne voulait pas certaines choses ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, tu finis pas cinquième d'un championnat quand ça se passe mal avec ton groupe. Quoi. Et après, je pense que certaines personnes du club ne voulaient plus travailler avec lui, qui ont fait en sorte de lui mettre des bâtons dans les roues. Et j'en faisais partie de ces gens-là. Donc ils ont joué avec ça, ils ont voulu faire passer des messages et ils ont réussi. Voilà.
Tu dis il, plus précisément, ça vise des personnes.
C'est les hautes instances, hein. Je veux dire, c'est pas les joueurs qui décident, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Bon, après, je ne m'étalerai pas sur ce sujet, mais bon, moi aussi, je sais certaines choses. Les présidents, Damien Comoli, Vincent Tonkong, pour les citer, ont voulu passer des messages qui étaient faux, et ça a été contre moi parfois. Ils ont été parfois même très très loin, ça m'a beaucoup affecté, beaucoup tout touché, et sur la saison qui a continué, ça m'a beaucoup marqué. Ouais.
Alors, ne penses-tu pas que la saison très éprouvante de l'an dernier est en premier lieu imputable à vous joueurs? C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, chez certains d'entre vous, vous n'êtes pas vu trop beau en décrochant ce fameux billet européen? Est-ce que certaines têtes, et ce qu'on peut comprendre, hein, quelque part, n'ont pas gonflé? Est-ce que...
Je sais pas, moi personnellement, je vous dirais non, parce que j'ai connu la Ligue des Champions avec Lille, j'ai connu la Coupe de l'UEFA avec Lille, je l'ai connu avec Saint-Etienne, et ça n'a pas changé grand-chose dans mon comportement, dans ma façon de jouer. Mais, peut-être que certains l'ont eu, mais j'ai pas eu cette vision-là. Je pense que certaines personnes étaient contentes d'être en terrain et ça visait un peu plus. Voilà.
Alors, que s'est-il passé exactement au Chambon-sur-Lignon entre les présidents, Laurent Rousset, le chauffeur de bus et toi? Parce qu'on a eu vent de cette anecdote que par rapport à des primes qui n'avaient pas été versées à temps,
pas conservé. Voilà, c'est justement le genre de propos qui me laisse un petit peu parce que je sais d'où ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'a dit c'est Geoffrey Dernier qui a dit à toute l'équipe de se barrer du stage parce qu'on n'avait pas eu les primes mais c'est archi faux. En fait, voilà, on avait un capitaine, un deuxième capitaine, plus des joueurs désignés, d'accord, dont je faisais partie. On était 6 au total, aller voir les présidents. Il n'y a pas que Geoffrey Ternis qui a pris une décision. C'est-à-dire que le capitaine et deux autres joueurs qui étaient mieux placés que moi, d'accord, ont pris la décision de partir du stade parce que les présidents n'ont pas respecté leurs paroles. Donc moi j'ai suivi le mouvement. D'accord. Mais comme à ce moment-là ça arrangeait les gens de dire que c'était Geoffrey Dernis, notamment les présidents de dire que c'est Geoffrey Dernis, ils ont dit ça. D'accord. Donc moi j'ai fermé ma gueule, j'ai dit s'ils ont envie de dire que c'est ça, mais aujourd'hui j'annonce haut et fort que c'est archi faux.
Bon, c'était intéressant d'avoir cette mise au point parce que beaucoup on était resté sur la version qui avait circulé. Alors, autre question, Geoffrey, pourquoi as-tu été écarté du groupe l'an passé? Est-ce que tu as eu des explications et est-ce que cette décision venait d'Alain Perrin ou de Bernard Canetto?
Non, je n'ai eu aucune explication. Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas, je l'ai su. mais attends, je suis parti jouer dessus, mais non, je l'ai pas su sur le moment. Tout ce que je sais, c'est qu'on faisait jouer les matchs de Coupe d'Europe. On m'a même offert le brassard pour ne pas me faire jouer les 6 derniers mois. Mais voilà, comme j'arrivais en fin de contrat et qu'on s'était pas mis d'accord, je sais que voilà, ça a joué.
Quand tu dis je l'ai su, c'est-à-dire concrètement, c'était quelle personne qui. C'est une personne.
Oui, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, Bernard Caiazzo, Roland Romélier, Damien Comoli.
C'est collégialement
voilà, c'est que globalement, ils se sont dit, le dernier, ce n'est pas. N'a pas voulu prolonger, donc aujourd'hui, il ne nous servira à rien pour les saisons passées pour la suivante, donc on ne peut plus jouer.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mauvaise ambiance présumée qui avait été dénoncée, entre autres, par Jérémy Janot en fin de saison, qui régnait l'an passé au sein de l'équipe? Est-ce qu'il y avait vraiment une scission entre notamment ceux qui jouaient et ceux qui ne jouaient pas? Toi, comment tu l'as vécu, sincèrement?
Jérémy, il dit un peu ce qu'il veut, mais il a fait partie des joueurs qui ne jouaient pas pour se qualifier pour l'Europe, donc peut-être qu'il a dit ça un peu pour lui. Mais moi, personnellement, voilà, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Personnellement, quand je jouais, même quand je ne jouais pas à la fin de saison dernière, voilà, je n'ai pas cherché au contraire, j'ai prié pour que le club se sauve.
D'accord.
Voilà, j'ai pas joué ma carte personnelle.
Entendu. Alors, certains potonautes, hein, malgré tout, persistent, c'est le sentiment qu'ils ont, qu'il y avait une sorte de fracture dans le vestiaire l'an dernier, que notamment certains joueurs les plus jeunes ne se sentaient pas forcément très concernés, contrairement à toi, c'est le point de vue d'un potonaute. Comment as-tu vécu cette situation? Est-ce que quelque part c'était fondé quand même que l'ambiance n'était pas top?
Non, mais je ne sais pas, non, l'ambiance sincèrement était très bien, mais est-ce que le fait, de, comme vous dites, de s'être qualifié en Coupe d'Europe et que ça faisait 25 ans que Saint-Etienne attendait ça, peut-être que les jeunes ont cru qu'ils étaient arrivés beaucoup trop tôt et qu'ils se sont dit voilà, maintenant on n'a plus besoin de faire les mêmes efforts parce qu'on a réussi quelque chose de grand.
D'accord.
Et donc peut-être que nous les anciens, on n'a pas eu le message assez fort pour leur dire attention. Et puis finalement c'est ce qui a un petit peu causé la perte de la saison dernière.